Vous écoutez, on lit pour vous.
Est-ce que tout le monde peut s'en sortir? Un texte de Simon Bolduc, paru dans le journal L'Itinéraire le 1er décembre 2023, volume 30, numéro 22. Depuis 2016 au Canada, en moyenne 15 personnes meurent chaque jour d'une surdose d'opioïdes ou de stimulants. Ce sont plus de 38 000 personnes, frères, sœurs, filles, fils d'un tel ou d'une telle, mortes depuis 2016. L'arrivée incessante et rapide de nouvelles drogues de synthèse rend la tâche des médecins, travailleurs de rue et psychothérapeutes encore plus difficile pour éviter les morts. Comment aider ces gens? Peut-on sauver tout le monde? Est-ce qu'il y en a pour qui on ne peut rien? Pour mieux comprendre la crise des surdoses qui prend de l'ampleur au pays depuis 15 ans, L'Itinéraire s'est entretenu avec la docteure Marie-Ève Morin, entre autres, médecin de famille œuvrant en santé mentale et en dépendance. En deuxième partie du dossier, nous donnons parole à Gabriel, Daniel et Anne-Marie, trois camelots qui s'en sont sortis, chacun à leur manière, et qui nous partagent leur parcours vers leur établissement. Docteur dans la marge. La médecine, c'était le rêve de son père, le sien. Être punk sur la rue Sainte-Catherine, chanter dans un band de rock, ce qu'elle a fait, et être DJ dans les festivals de musique techno, ce qu'elle fait toujours. Ado, avec son band, c'est pendant une ovation de toute l'école, après avoir chanté « We're not gonna take it » des Twisted Sister, qu'elle aura son premier high. Cet amour du public lui donnera la fascination pour la scène, la musique, les arts et aussi les petits bums, les rockers peu fréquentables aux grandes dames de sa mère. Mais elle était aussi une première de classe et avait tout le potentiel de devenir la première femme chirurgienne orthopédique de la Beauce, comme le voulait son père. Elle est devenue un peu des deux. Doc Morin, la médecin des poqués, des toxicos, des marginaux et des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale. Docteur Marie-Ève Morin, la fondatrice du projet Caméléon, service d'information, de sensibilisation et de prévention des dépendances, pionnière en vérification des substances au Québec et conférencière pour sensibiliser et prévenir jeunes et moins jeunes sur la dépendance et la santé mentale. Parce que, selon elle, soigner le monde ordinaire, c'est plate. Elle a commencé comme le voulait le plan familial, en orthopédie. 2 ans de pratique et beaucoup de prescriptions de dilodide auront eu raison d'elle. Un passage professionnel dans le quartier Limoilou l'aura connectée à son destin. C'est là qu'elle a commencé à triper sur la médecine auprès des patients provenant des milieux de la prostitution, du carcéral et de la toxicomanie. La docteure Morin est aux premières loges pour témoigner de la crise des surdoses et de ses préoccupations qui en découlent. Discussion franche et sans détour avec celle que l'on surnomme la docteure rebelle. Au cours des 12 derniers mois, il y a eu 525 décès liée à une intoxication suspectée aux opioïdes et aux autres drogues. Le nombre de décès le plus élevé est observé dans les 6 derniers mois. Quel impact a cette crise sur ton quotidien professionnel? On parle de 38 000 décès au Canada depuis 2016 liés aux surdoses. Je viens de Saint-Georges-de-Beauce. C'est plus que la population de la ville. En 7 ans, je vois plus de souffrance qu'avant. Il y a une grande détresse. Le bon temps pour consommer est révolu. Les drogues étaient beaucoup plus pures quand j'ai commencé ma pratique à la mi-2000. Ce n'étaient pas les mêmes prix. Un speed, la peach, ça pouvait se vendre $40 le comprimé, mais tu prenais un comprimé et tu pouvais danser pendant 3 jours. Maintenant, la consommation, c'est la roulette russe. Les gens ne savent plus ce qu'ils achètent. La seule façon de faire de la prévention pré-consommation, c'est par la vérification de substances. Certains peuvent penser que d'offrir aux consommateurs l'analyse de ce qu'ils vont prendre, c'est d'encourager la consommation. Ce n'est pas un service incitatif, au contraire, c'est de l'éducation. Dans les festivals en 2017-2018, à l'époque où on retrouvait plus de fentanyl dans les drogues, si on disait aux gens qu'il en contenait, ils ne la consommaient pas et ne se mettaient pas en danger de surdose. Ça change vite, le type de substance qui arrive sur le marché et surtout, sa qualité est très variable. Comment on se tient à jour sur les nouvelles drogues? C'est impossible de tout connaître. Il y a 10 ans, j'ai participé à l'émission « Enquête sur les drogues de synthèse ». En 2013, on disait qu'à chaque jour, dans le monde entier, il y avait une nouvelle drogue de synthèse qui était inventée. Une décennie plus tard, où en sommes-nous? Sky's the limit. Même quand on fait de la vérification de substances, on ne peut pas identifier toutes les drogues tellement il y en a. Qui sont ces gens qui franchissent la porte de ton bureau comme patient? Ça va faire 20 ans en 2024 que je pratique. Pour que je te prenne comme patient, le prérequis, c'est d'avoir eu ou d'avoir des problèmes de dépendance. Je ne prends pas le monde qui se dit normal, je les trouve endormants. Souvent, ils essaient de se trouver des maladies, ils sont plus hypochondriaques. Si j'ai un patient qui sort de la prison de Bordeaux, qui a besoin de méthadone, il a l'hépatite C non traitée et il est bipolaire sans le savoir, j'ai pas besoin de faire beaucoup pour faire une différence dans sa vie. Les gens me demandent souvent « Comment je fais pour travailler avec des dépendants, des menteurs, des manipulateurs? » Ce n'est pas ça du tout. Ce sont des gens hyper gratifiants et fidèles. Ils respectent pour la plupart mes 2 seules conditions. Être là et être honnête. Je ne vois pas 50-60 patients par jour. Mes rendez-vous durent 30 minutes et la première rencontre dure 1 heure. La moyenne des consultations en médecine de famille au Canada, c'est 5,7 minutes. Il y a des problèmes qui ne se règlent pas en 5 minutes. Et la meilleure chose à dire à un toxicomane, c'est rien. C'est l'écoute. C'est gratifiant pour toi d'être témoin de cette parole vraie qui se libère? Il y a des journées, je me trouve donc chanceuse. Je ne suis pas parfaite. J'ai eu mes problèmes, j'ai eu mes vices, j'ai réglé mes choses, pas toutes, mais je suis pas pire. J'ai un conjoint qui m'aime, je me marie en septembre, une maison, un moyen de transport, je peux m'acheter à peu près tout ce que je veux, je peux voyager, je n'ai pas de dossier criminel. Tu réalises tout ça au contact des personnes qui en arrachent plus que d'autres. En 2022, les hommes décédés de surdose représentent 75 %. Pourquoi les hommes sont plus touchés par les surdoses? Ce n'est pas volontaire. Mais 75 % à 80 % de ma clientèle, ce sont des hommes. J'ai travaillé dans les prisons fédérales. Il y en a 1 pour femmes au Québec, alors qu'il y en a 10 pour hommes. Ce n'est pas pour rien. La toxicomanie touche plus les hommes que les femmes. Est-ce que c'est l'impulsivité, les moyens financiers, le pouvoir? J'en ai aucune idée. Les hommes se suicident plus que les femmes. Est-ce que c'est parce que les hommes sont hypersensibles dans le fond? Tu dis que l'automédication, c'est une hypothèse pour diagnostiquer les problèmes de santé mentale. Tu donnes en exemple une personne TDAH, non diagnostiquée et non traitée, qui va se médicamenter avec des stimulants. Beaucoup de café, de nicotine, pour réguler la dopamine, le speed, la coke, le crack, le cristal. Y a-t-il beaucoup de patients qui te voient sans savoir qu'ils ont un problème de santé mentale primaire et qui s'automédicamentent depuis longtemps? Énormément. Surtout des bipolaires qui s'ignorent. Malheureusement, beaucoup vont se suicider sans qu'on le sache. L'automédication, c'est une des hypothèses pour diagnostiquer les problèmes de santé mentale. Mon mentor, le docteur Jean-Pierre Chiasson, le fondateur de la clinique Nouveau Départ, m'a appris que la dépendance, c'est le syndrome déficitaire de la gratification. t'en as jamais assez. C'est bon? Il faut que ce soit meilleur. C'est hot? Il faut que ce soit plus hot. Tu sais, 50 à 70 % des personnes dépendantes souffrent à la base d'un problème de santé mentale primaire qui était là avant la consommation. Le jour où on traite le bon bobo avec la bonne molécule, c'est drôle, la consommation est moins difficile à régler. Quand on parle de dépendance et de consommation, on réfère souvent aux drogues fortes, les stimulants et les opioïdes, mais une autre de tes grandes préoccupations est la consommation de cannabis chez les adolescents. Pourquoi? La légalisation a vraiment mené à la banalisation. On n'a jamais vu des taux de THC aussi forts. En légalisant, on nous promettait de verser les profits en éducation et prévention. C'est de la bullshit. Je ne dis pas que fumer un joint te mène à la rue. Le cannabis a des vertus aussi. Ce qui est problématique, ce sont les psychoses toxiques chez les plus jeunes avant 25 ans. Avant cet âge, le cerveau, c'est une voiture qui est en train de se fabriquer pour sortir de l'usine à 25 ans. En consommant jeune, certains vont manquer des étapes sur la chaîne de montage. Je ne dis pas que les jeunes ne devraient jamais fumer de pot. Mais là, c'est rendu qu'il y en a qui c'est du matin au soir, et même dans la classe. Un wax pen, vaporisateur qui contient du cannabis, ça sent les bonbons. La seule façon de différencier une vape de nicotine ou de cannabis, c'est d'y goûter. J'insiste. Aussi, pour dire que ce n'est pas le même pot qu'il y a 25 ans. À Woodstock, le taux de THC était de 2 à 10% maximum. La SQDC vend du cannabis à 30 %. C'est rendu rock'n'roll. Les wax pens, qui sont illégales, mais qui s'achètent en ligne, peuvent aller jusqu'en haut de 90 %. Je ne trouve pas que le cannabis est une drogue douce, plus maintenant. Si j'étais tombé sur une wax pen à 14 ans, je ne serais jamais devenu médecin. Pour les personnes qui sont loin du milieu de l'intervention auprès des gens de la rue, c'est difficile de concevoir qu'on distribue des seringues, des pipes à crack, qu'on ouvre des lieux où on peut consommer. Quelle est la limite d'une philosophie qui préconise l'approche de réduction des méfaits? Où franchit-on la ligne entre aider et nuire? Venir se piquer sous supervision, fair. Mais est-ce qu'on leur offre de l'aide? La réduction des méfaits, j'y crois. C'est un passage obligé, mais je pense que ça ne doit être qu'une étape pour peut-être s'en sortir et passer à autre chose. Ce que je déplore parfois, c'est que j'ai l'impression que pour une catégorie de personnes, c'est une condamnation à consommer pour le reste de leur vie. Sommes-nous tous égaux devant la dépendance? Non. Je pense qu'il y a des gens vulnérables à la consommation. Si on était tous pareils devant la conso, on serait toutes et tous alcooliques. On s'entend? Tout le monde aime ça, boire. Tout le monde trouve ça bon, boire. Tu as travaillé avec tellement de gens. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'en sortir et espérer un rétablissement? Je ne connais pas de toxicomanes qui n'ont pas de trauma majeur, comme des abus dans l'enfance sexuelle ou physique, l'abandon, l'intimidation. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas réhabilitables? Je pense qu'on peut résorber les traumas, mais ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un « Si tu t'enlèves la vie, je ne t'en voudrais pas. » Souvent, ça provoque l'effet contraire. Le gouvernement fédéral, après avoir repoussé son projet de loi d'un an, envisage dès mars 2024 l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes avec des enjeux de santé mentale sévères, considérées non traitables. Tu en penses quoi? J'ai peur des dérapages. Il ne faut pas condamner les gens, même s'ils sont dans la souffrance, le malheur. Je crois en la rémission profondément. Mais il y a des gens qui me racontent des histoires qui me donnent la chair de poule. Juste d'y penser. Je les comprends de consommer, de ne pas être capable de travailler, de vouloir tout lâcher. As-tu vu la série Painkiller? Est-ce qu'il y a un type de médicament présentement qui est surprescrit et qui pourrait avoir des conséquences désastreuses ultérieurement? On prescrit beaucoup de psychostimulants. Le Ritalin, le Vivance, le Concerta. Les psychostimulants, certains psychiatres diront qu'on devrait en prescrire plus. Je suis de l'avis contraire. Et on en prescrit pour plein d'autres raisons comme perdre du poids. J'ajouterai aussi que c'est la première fois en psychiatrie que les patients s'assoient devant moi et me demandent d'avoir un diagnostic. Ils entrent dans le bureau et me disent « Docteur, je suis TDAH, j'ai fait un test sur Google et je veux un stimulant. » C'est la première fois qu'on constate ça. Pourquoi? Je ne sais pas. La performance, notre déséquilibre de vie, l'étourdissement des écrans, les stimulants répondent à un besoin qui n'était pas si marqué il y a 30 ans. On devrait s'y pencher plus. À 45 ans, vas-tu faire ça encore longtemps? La médecine jusqu'à maintenant, ça me plaît encore. Plus le temps passe, plus j'ai du fun dans ma pratique. Je ris plus. C'est tellement important de rire. Je suis une conteuse de jokes, même si elles ne sont pas toujours bonnes. La musique préférée des sans-abri, le house, rire. Dans la rue, si une chose est importante, c'est de ne pas ignorer les gens. Le sourire vaut plus que la piastre. Dans mon bureau, quand je suis témoin d'une personne qui réapprend à sourire, c'est vraiment beau. Je crois à la rémission, à la réinsertion et à la réhabilitation. Je le vois, j'ai des patients qui ont fait 25 ans de prison pour meurtre au premier degré qui sont libres aujourd'hui. Ils travaillent et s'occupent de leurs enfants, viennent à leur rendez-vous et ne consomment plus. J'en ai vu s'en sortir, comme j'en ai vu en mourir de la rue. Pourquoi seulement 20% de la population souffre d'une dépendance au cours de sa vie? Il y a quand même 80% des personnes qui sont capables de se contrôler. Qu'est-ce que c'est injuste? Mais c'est comme ça. C'était « Est-ce que tout le monde peut s'en sortir? » Un texte de Simon Bolduc, paru dans le journal L'Itinéraire, le 1er décembre 2023, volume 30, numéro 22.
Santé bucco-dentaire, vieillir avec le sourire. Un texte de Marie-Josée Boucher, paru le 9 avril 2024 dans Virage. Les personnes âgées sont susceptibles de développer certains problèmes qui pourraient miner leur santé bucco-dentaire. Néanmoins, de nos jours, il est tout à fait possible de vieillir en conservant toutes ses dents. Pour y arriver, voici quelques conseils à garder en tête après 50 ans. Telle bouche, tel corps. Comme l'indique l'Association dentaire canadienne, votre santé, en général, dépend aussi de votre santé bucco-dentaire, particulièrement en vieillissant. Pourquoi? D'abord, parce que des dents en santé sont capitales pour bien s'alimenter et éviter la dénutrition. Les dents, ça sert à manger. Moins on en a, plus la digestion est difficile, explique Dr. Marie-France Gagnon, dentiste et propriétaire d'une clinique dans l'Est de Montréal. Ensuite, parce qu'une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut aussi engendrer des maladies. Par exemple, lorsqu'elles s'accumulent, certaines bactéries buccales peuvent être inhalées, ce qui peut causer une pneumonie. Des études indiquent aussi un lien entre la parodontite, une maladie des gencives, et une hausse des risques de développer certaines pathologies cardiovasculaires. Votre bouche est bien plus qu'un sourire. Elle en dit long sur votre santé, mentionne dans un communiqué la docteure Liliane Malzex, présidente de l'Ordre des dentistes du Québec. Les patients ne réalisent pas toujours que des infections dans la bouche peuvent rapidement atteindre d'autres organes ou qu'un cancer buccal doit vite être détecté. Dans le cadre du Mois national de la santé bucco-dentaire, l'Ordre a lancé la campagne « Votre bouche en dit long sur votre santé ». Le site web « Ma bouche en santé » en un mot.com propose une belle bouchée de contenu sur la santé bucco-dentaire, dont un balado sur l'importance de prévenir la carie à tout âge. Un suivi régulier. Une bonne santé bucco-dentaire est donc essentielle et elle passe nécessairement par un suivi professionnel régulier. À quelle fréquence? Au moins une fois par année, mais peut-être plus, selon la condition générale de votre bouche. Certaines personnes font plus de tartre que d'autres, signale le docteur Gagnon. Lorsqu'ils s'accumulent, ils causent des maladies de gencives, d'où le besoin de nettoyer plus souvent pour certains patients. La dentiste rappelle aussi qu'il n'y a pas d'âge pour développer des caries. Et si elles sont non traitées, elles peuvent donner lieu à des abcès et des maladies parodontales. Les personnes qui vivent avec le diabète doivent être particulièrement vigilantes. Quand la glycémie est mal contrôlée, on a plus de risque d'avoir une maladie parodontale, souligne Martine Bousquet, hygiéniste dentaire. Examinez votre bouche. Examinez régulièrement vos gencives, vos dents et votre langue pour vous assurer qu'elles sont saines, comme le suggère Santé Canada. Par exemple, des gencives en santé devraient être roses et fermes. La langue, elle, rose, lisse et humide. Dans tous les cas, vous ne devriez pas ressentir de douleur ni constater de rougeur ou de saignement. Soyez aussi à l'affût de signes de déchaussement, un problème qui peut survenir plus souvent en vieillissant, comme une sensibilité accrue au chaud et au froid. La gencive sera plus basse et exposera, entre autres, la racine de la dent. Cette racine est plus molle que l'émail de la dent et la carie va s'y installer, explique la docteure Gagnon. Et n'oubliez pas, la carie n'est pas synonyme de douleur. En fait, les symptômes sont directement liés à l'étape de son développement. Si elle ne touche que l'émail, elle ne cause généralement pas de douleur. Si elle touche la dentine, soit l'ivoire, elle peut causer une sensibilité au chaud et au froid. Quand le mal a atteint la pulpe dentaire, siège des vaisseaux sanguins et des nerfs, la douleur devient plus constante. Gare à la bouche sèche. La sécheresse de la bouche, xérostomie, est l'un des effets secondaires de bien des médicaments. Or, la salive est un nettoyant naturel pour les dents, explique la docteure Gagnon. Sans elle, la plaque dentaire aura plus tendance à coller aux dents. Cette substance incolore, composée notamment de bactéries, doit être enlevée au quotidien avec la brosse à dents et la soie dentaire, faute de quoi elle s'accumule, durcit et devient du tartre. Nous devons alors faire le nettoyage et le détartrage, décrit Martine Bousquet. Sinon, cela peut provoquer la carie ou des maladies parodontales, dont la gingivite et la parodontite. Choisir les bons instruments. Il faut se brosser les dents avec un dentifrice fluoré pendant 2 minutes au moins 2 fois par jour, dont une fois avant d'aller dormir, sans oublier la langue. Selon moi, tout le monde devrait avoir une brosse à dents électrique. Le mouvement de la brosse est plus efficace que si on le fait manuellement. Ça va davantage déloger les bactéries et ça fera une meilleure stimulation de la gencive, fait valoir le docteur Gagnon. Elle met aussi l'accent sur l'utilité de la brossette interdentaire. Si les gencives descendent, les espaces entre les dents sont plus ouverts. La brossette ira entre les dents pour mieux nettoyer. L'utilisation quotidienne de la soie dentaire demeure aussi de mise. Enfin, il ne faut pas oublier de remplacer la brosse à dents ou la tête de la brosse à dents électrique tous les 3 mois. Entretenir ses implants et prothèses. Entretenir les prothèses et les implants dentaires est tout aussi important que de prendre soin des dents naturelles. Nous traitons les implants de la même façon que les dents, explique la docteure Gagnon. La différence, c'est que les implants ne carient jamais. En revanche, ils pourront avoir leurs propres problèmes de gencives et d'os de la même façon qu'une dent. Il faut donc vérifier les gencives autour des implants, ajoute Martine Bousquet. Il y a du tartre qui peut s'y accumuler. Il faut effectuer le nettoyage au moins 2 fois par année. De leur côté, les personnes aînées qui portent une prothèse doivent avoir recours à un produit adapté. Il y a des brosses spéciales pour le plastique des dentiers. La dent est plus dure que le plastique, donc on n'utilise pas de pâte dentifrice, avertit la dentiste. Pour une prothèse partielle, il importe de brosser les dents après avoir mangé, parce que la nourriture va davantage rester autour des dents. On doit brosser le palais ou les endroits bien cachés par la prothèse. Elle recommande aussi d'enlever les prothèses pendant la nuit pour laisser respirer la gencive. Bien s'alimenter. L'Ordre des dentistes du Québec affirme qu'une alimentation saine, composée de fruits et légumes, de légumineuses, de noix, de grains entiers et de produits laitiers, apporte calcium, magnésium, phosphore, vitamine C et D, ainsi que fluor. Ce sont des facteurs de protection contre la carie et l'infection. Parallèlement, on conseille de diminuer la consommation de sucre. Les eaux gazéifiées sont aussi à éviter, car elles sont extrêmement acides, spécifie la docteure Gagnon. Cela va causer l'érosion de la dent, qui va fondre et s'amincir. La dentiste conseille aussi d'éviter de grignoter entre les repas. Si l'on doit le faire, elle suggère d'opter pour les collations santé, noix, fruits et légumes, qui aident à neutraliser l'acidité de la bouche, ponctuée de lait, de yaourt nature ou de fromage. C'était Santé bucco-dentaire, vieillir avec le sourire. Un texte de Marie-Josée Boucher, paru le 9 avril 2024 dans Virage.